Bonsoir tout le monde, il est 20h04, voilà, 4 petites minutes de retard pour l'équipe de Génération Sport. Vous l'avez bien compris, vous êtes toujours sur Radio G, sur le 101.5 FM ou bien même sur le site internet www.radio-g.fr. Ce soir, nouvelle émission de Génération Sport marquée par la journée exceptionnelle d'aujourd'hui qui est la journée consacrée aux droits de la femme, et au cours de l'émission, nous aurons l'occasion de parler de sportives qui ont marqué l'histoire ou qui continuent à l'heure actuelle de marquer les esprits. Aujourd'hui, l'équipe est au complet. Alex et Cédric sont avec moi ce soir. Comment allez-vous, messieurs?
Vas-y, prends.
Bah, ça va très bien, Max. Je suis un peu essoufflé parce que j'ai dû sprinter sur la fin.
Voilà, on t'a laissé le temps de bien t'installer, de mettre tes crampons. Cédric, ça va ce soir?
Ouais, la voix est là, heureusement.
Parce que,
mine de rien, gros week-end sportif. Hein.
Ouais, c'est vrai, on aura l'occasion d'en parler, notamment avec notre faux direct de samedi dernier. On reviendra sur cet événement imprévu. Et puis, nouvelle personne non, puisque si vous êtes un auditeur régulier de Génération Sport, vous avez déjà pu l'entendre. Faustin est revenu avec nous ce soir. Ça va, Faustin?
Ça va très bien.
Donc voilà, Faustin qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, je te laisse te présenter, allez, vas-y.
Bah, je suis en classe de seconde, j'ai pour découvrir un peu l'univers de la radio et je suis passionné de basket.
Voilà, donc tu étais déjà venu une seule fois, il me semble, dans l'émission. Ouais. Et vu que tu avais bien kiffé, et ben on t'a réinvité et te revoilà ce soir. Est-ce que les gars, avant de commencer le 1-2, on peut faire on peut parler du programme de la soirée, Alex par exemple, ou Cédric, comme vous voulez, messieurs.
Ouais, écoute, je vais présenter si tu veux, comme ça je te le temps de t'installer tranquillement pour le 1-2. Le programme ce soir, c'est en rapport quand même majoritairement avec la date d'aujourd'hui, puisque comme ça a été dit en début d'émission, c'est la journée des droits de la femme. Et c'est vrai que depuis quelques années, on essaye toujours de faire une émission un peu spéciale ce jour-là pour mettre justement le sport féminin, voire des athlètes féminines en avant. Donc cette année, on continue d'en annoncer. Et puis en plus, c'est vrai que la date tombait pile poil après le match du FAB 49. Donc on est en raccord pour une fois. Sans se forcer, sans craindre, en tout cas, voilà.
Ouais, comme tu l'as rappelé, c'est vrai que c'est une date où à chaque fois on essaye de proposer des contenus différents pour essayer de racoler tout simplement à la date d'aujourd'hui, et c'est ce qu'on va continuer de faire aujourd'hui. Est-ce que, Alex, je te laisse commencer le 1-2, ça te va?
Ça me va très bien. On va commencer sans plus tarder par le basket local, avec dans un premier temps évidemment l'UFAB 49, l'UFAB qui défiait l'ASVEL à Jambouin. C'était samedi soir, on devait donc le couvrir en direct, malheureusement il y a eu des problèmes techniques et on s'en excuse, et en tout cas voilà, ça n'a pas empêché l'UFAB de perdre contre l'ASVEL, une défaite quand même assez lourde, 67-60. On peut retrouver donc sur le site de Radio G dans l'onglet Basket Live, on peut retrouver le replay du match, donc avec nos voix qui commente la partie dans la grande majorité, en tout cas, parce qu'il y a
puis on a essayé de faire différemment du coup pour essayer que ce soit écoutable,
bien sûr,
hors contexte du match, pour que ce soit le plus précis, comme si vous y aviez été en direct.
C'est ça. Et puis vous pouvez aussi retrouver dans ce même onglet une interview de Nabala Fofana juste après le match. D'ailleurs, Max, est-ce que tu peux la diffuser?
On la diffusera peut-être au cours de l'émission, c'est peut-être après la première pause musicale.
C'est ça, c'est ça.
Mais et oui, on aura l'occasion d'écouter cette
interview. Allez sur le site de Radio G, vous pourrez retrouver. Ça dure une minute.
Les deux interviews qu'on avait fait.
Également, il y a le replay de l'autre match contre Basketland en décembre dernier, et deux interviews également de Brito De Souza et de Adèle Treano.
Le tout dans la section Basket Live.
C'est ça, Basket Live. On va passer à une autre équipe angevine de basket, c'est l'EAB, qui n'a pas joué ce week-end, hein, mais qui va commencer le week-end prochain, donc vendredi 11 mars. Sa deuxième phase, hein, une deuxième phase, on en a longuement parlé ici, qui va être déterminante pour la suite de la saison, et notamment une potentielle promotion en Pro B. Angers, donc, affronte à domicile Mulhouse, ce sera donc vendredi. Donc, n'hésitez pas à aller les encourager pour qu'ils remportent leur premier succès en deuxième phase. Et puis, un dernier mot de Cholet Basket, qui s'est imposé facilement à domicile contre Chalon Reims. Et voilà, le Cholet qui remonte au classement à la 13e place et qui s'écarte un peu plus de la zone de relégation.
Oui, on va continuer à parler de sport angevin. On va parler football maintenant avec le SCO, qui est dans une période très très compliquée. 6e défaite consécutive en championnat ce week-end. C'était en terre bretonne que les Angevins ont été battus. Victoire de Rennes, donc 2-0. Des buts signés Bourigeaud et Christian Laborde. Si on regarde le championnat, les gars, le SCO pointe à la 14e place. Donc c'est assez fou, hein, quand même, la série qui est en train de vivre actuellement, le SCO, avec 6 défaites d'affilée. Ça fait vraiment mal au moral. Voilà, donc derrière, au niveau des points, c'est pas encore très alarmant, même si Lorient, 18e, n'a que 5 points d'écart avec le SCO. On espère pour les Angevins que cette série va s'arrêter dès le week-end prochain, dès ce week-end, avec la réception de Reims. Ça se déroulera dimanche prochain à 15h au stade Raymond Coppa.
Je pense qu'on avait évoqué, c'est la semaine dernière, que les matchs contre les prétendants à la descente vont être deux fois plus importants. Ouais, je crois.
Bah là, c'est contre Reims qui est à une place au-dessus du SCO, qui a 3 points d'avance.
Reims, c'est pas trop inquiété, mais il y aura des matchs compliqués contre des...
Clermont qui va arriver aussi.
Clermont, voilà, ça va pas être facile, donc il va falloir bien négocier ça. C'est bon pour le SCO.
C'est bon pour le SCO.
Et ben, on va passer à un autre SCO, c'est le SCO Handball. Il y avait un match, j'en ai aussi longuement parlé, c'était un match hyper important contre Villeurbanne pour soit sombrer, soit avoir un motif d'espoir pour la fin de saison. Et le SCO l'a emporté 26-25, donc à domicile contre Villeurbanne à Jambouin. Et voilà, ça permet aux SCOistes non pas de sortir de la dernière place, mais d'être à 2 points de la sortie de la zone rouge, et donc avec Valence 14e à 10 points et Villeurbanne du coup 15e avec 10 points. Donc c'est une bonne nouvelle pour le SCO qui peut potentiellement se permettre de rêver sur la fin de saison. Et ce soir à 20h30 à Ivry, les Angevins affrontent le leader de Pro League, donc ça va être un match beaucoup plus compliqué donc face au leader, donc le premier qui rencontre le dernier. On verra si les Angevins sont capables de réaliser un exploit.
On va parler maintenant de l'équipe angevine la plus en vue cette saison. On va parler des Ducs d'Angers, puisque je vois que Cédric a décidé de faire marcher le merchandising du site internet avec cette magnifique casquette des Ducs d'Angers.
Ah, même pas du site internet.
Ah, tu l'as acheté en physique.
Boutique.
Ah, s'il vous plaît, monsieur. Les Ducs d'Angers, justement, qui jouent d'ailleurs ce soir dans 3 minutes à 20h15, leur dernier match en saison régulière. Ce n'est pas à domicile, mais c'est à Bordeaux. Et depuis la semaine dernière, les Ducs ont eu un programme très chargé. Mardi dernier, durant notre émission, les Ducs se sont imposés 3-2. À domicile face à Mulhouse. Et puis après, il y avait tout simplement deux gros chocs d'affilée. D'abord, les Ducs ont battu Rouen 4-2. Et ensuite, les Ducs, par contre, se sont inclinés à domicile face à Grenoble. Grenoble qui est premier de cette Ligue Magnus avec une saison régulière quasiment parfaite. Cédric, est-ce que tu as un mot à dire sur l'un des deux matchs ou sur les deux matchs? Tu as été voir le match contre Grenoble?
J'étais à Grenoble. J'étais à l'Ice Park pour voir Grenoble.
Ouais.
Déjà, on avait vanté l'ambiance qu'il y avait le samedi dans une salle comble. Mais alors, imagine l'Ice Park rempli pour un match digne des playoffs.
Ça doit faire du bruit.
On était à peine rentré, que déjà tu sentais l'importance du match. Il y avait de l'ambiance dès le début. Beaucoup de fans habitués à venir ont constaté ça. Et c'était un match de folie. Avec un Grenoble qui avait mis quelques joueurs en repos, puisque forcément les playoffs arrivent dès vendredi.
Et puis Grenoble est assuré de finir premier cette Ligue Magnus.
Donc il y avait un petit turnover. Angers, je crois aussi, il y a eu des joueurs qui étaient au repos, justement, après le match de Rennes. Contre Rennes.
Ah, tu te trompes d'équipe, Angevine.
Contre Rouen.
Okay.
Rennes, Rouen.
Oui. On t'excuse.
Et. Donc c'est vrai que ce match-là avait quand même un enjeu, c'était de confirmer cette seconde place.
Ouais.
Et du coup, à la différence de,
ouais, on passe
de
troisième.
Points, ils sont à égalité, donc normalement. Mais comme il y a plus de défaites contre Rouen, du coup Rouen repasse devant.
Ouais.
Et du coup, donc ce soir, c'est victoire impératif contre Bordeaux, et il faudrait que dans le même temps, soit que Rouen gagne aux prolongations ou tir au but, soit qu'ils perdent. Donc ouais, il y a encore une petite espoir d'avoir cette seconde place.
C'est vrai que ce serait un peu une petite fausse note quand même, cette troisième place, au vu de la saison impressionnante que les deux qu'on fait.
Pas forcément au vu de qui ils sont devant. On sait que voilà, on n'a pas été forcément bon contre Rouen.
Ouais.
Rouen a quand même fait une belle saison. Puisqu'ils jouaient le championnat d'Europe, ils ont quand même été loin en championnat d'Europe. Donc leur deuxième place non plus n'est pas imméritée. Et puis Grenoble, oui, qui était largement au-dessus, qui a survolé. C'est vrai, mais voilà, si on veut refaire une petite analyse du match, c'est parti très vite, hein, puisque ouverture du score à la 9e minute. Et direct derrière le coup d'envoi, la remise en jeu, on rescore.
Okay.
Donc on s'est retrouvé très vite à 2-0. Donc ça promettait voilà un premier tiers de folie, et finalement fin du premier tiers il y a 2-1, ça remonte dans le deuxième, et dans le troisième voilà, bah on a vu Grenoble faire quand même le métier. À noter, c'est rare quand même que j'ai critiqué l'arbitrage sur tous les matchs que j'ai vus. Là je trouvais que les arbitres étaient un petit peu en dessous. Il y a eu quand même des charges assez fortes qui n'ont pas été sifflées. De mémoire, il y a juste eu une pénalité.
Ouais.
Deux pénalités, voilà, une de chaque côté. Donc, ça y a peut-être un petit peu joué, mais bon, dans l'ensemble, ça annonce quand même une équipe solide pour entamer ses playoffs dès vendredi et samedi pour les deux premiers matchs à domicile.
Ouais, donc t'as donné le rendez-vous pour les playoffs, je vous rappelle juste. Le coup d'envoi d'ailleurs a été donné, il est 20h16, donc les Ducs jouent actuellement à Bordeaux pour leur dernier match en saison régulière, et t'as rappelé l'enjeu, Cédric, gagner impérativement et espérer en même temps une défaite de Rouen pour pouvoir récupérer cette seconde place qui ferait beaucoup de bien en vue des playoffs qui arrivent la semaine prochaine.
On va passer aux actualités nationales et internationales avec un peu de rugby avant la fin du tournoi Destination qui va arriver sur la semaine prochaine et la semaine d'après. On va parler un peu de Top 14 avec donc ce championnat de France, hein, qui est assez serré. Parmi les résultats du week-end, on a eu la victoire de Castres face à Montpellier 25-9. Toulon s'est imposé à Biarritz 45-17. Perpignan a gagné 34-13 contre le Racing 92. Pau s'est imposé face au gros club de Bordeaux-Bègles 23-16. Un bel exploit pour les Palois. Et puis La Rochelle a battu Brive 41-15. Clermont a battu Lyon 25-16. Et puis le dimanche soir, il y avait un gros choc entre le Stade Français et le Stade Toulousain. Et le Stade Toulousain s'est incliné donc face au Stade Français après un essai parisien concédé dans la dernière minute. Les champions de France restent donc pour l'instant en dehors des places qualificatives pour la phase finale du Top 14. Affaire à suivre pour Toulouse.
Oui, on va parler football maintenant avec les résultats de cette 27e journée de Ligue 1 qui a commencé par un carton plein, celui de l'Olympique Lyonnais, victoire 4-1 face à Lorient. Lens a une fois plus perdu quelques points pour l'Europe, défaite face à Brest 1-0. Nice a une fois de plus battu le Paris Saint-Germain, victoire des Niçois 1-0. Saint-Etienne a également battu Metz 1-0. 2-0 en faveur de Nantes face à Montpellier. Montpellier aussi qui perd de nombreux points depuis quelques semaines. Reims et Strasbourg qui se sont quittés sur un 1 partout. Comme on l'a dit tout à l'heure, Angers a été battu par Rennes 2-0. Bordeaux, qui continue de sombrer après leur défaite 2-0 face à 3. Lille a battu Clermont assez largement sur le score de 4-0. Et puis Monaco a battu l'Olympique de Marseille en guise de clôture de cette 27e journée. Victoire des Monégasques, 1-0. Il y a également de l'actualité autour de la Ligue des Champions, puisque ce soir, Il s'agit de, des huitièmes de finale, du début des huitièmes de finale retour de cette Ligue des Champions. Le Bayern Munich reçoit Salzbourg et Liverpool reçoit l'Inter de Milan. Et puis il y a le gros match, celui de demain, où le Paris Saint-Germain se déplacera à Madrid pour y affronter le Real Madrid. Je pense qu'on aura l'occasion, on verra si on aura l'occasion d'en parler en fin d'émission, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore eu l'occasion de débattre ensemble du match aller et puis des enjeux du match retour, parce qu'il y a beaucoup d'absents, il y a beaucoup de blessés, notamment une incertitude autour de Mbappé.
On va aller du côté des sports d'hiver maintenant. On va commencer par une petite info en ski alpin. Là, ça concerne deux athlètes françaises. Au lendemain du succès de la tricolore romane Mira Doly en Super G, la française Tessa Worley a remporté le géant de Lenzerheide en Suisse ce dimanche. Donc c'était sa 16e victoire en Coupe du Monde et la skieuse qui se relance donc après des Jeux Olympiques un petit peu décevants. Et puis on va parler maintenant du biathlon. Quentin Fillon-Maillet surfe sur sa vague des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin et ses 5 médailles, déjà largement tête du classement général de la Coupe du Monde. Le français a remporté ce dimanche la poursuite de Contio Lati. Alors j'ai un peu de mal avec les noms de stations de la Coupe du Monde de sport d'hiver. Donc c'était ça. Il a remporté donc dimanche, c'était la poursuite, et le samedi il avait gagné déjà le sprint. Donc voilà, le français qui devance dimanche donc l'allemand Eric Lesser, l'italien Lucas Hofer et son compatriote Emilien Jacquelin. Fillon-Maillet donc plus que jamais leader et grand favori donc pour le globe de cristal qui arrive, enfin voilà, qui va être décerné très bientôt. Et puis on va faire un petit point sur les Jeux Paralympiques 2022 de Pékin. Alors, il y a pas mal de succès pour nos Français. La première médaille d'or, elle a été décrochée par Arthur Bauchet en ski alpin. Et puis ensuite, c'était quelques jours plus tard, Cécile Hernandez qui a également gagné en snowboard cross. Et puis Arthur Bauchet a remis ça avec le super combiné. Donc voilà, trois médailles d'or déjà pour les Français. Et médaille d'argent également avec Marie Bauchet qui n'est pas la sœur de Arthur Bauchet puisque ça ne s'écrit pas pareil. Donc voilà, elle a gagné en Super G quant à elle. Et puis il y a également une médaille de bronze également en ski alpin avec Hyacinthe Deleplace qui a donc remporté. C'était en catégorie déficient visuel, donc il a remporté la médaille de bronze.
Puis on va peut-être faire un petit point correction involontaire de notre part, mais c'est vrai que la semaine dernière on parlait de l'ouverture de ces JO avec la présence notamment des Russes et des Biélorusses, et ça s'est vraiment joué à pas grand chose, mais à quelques heures de l'ouverture de la cérémonie de ces paralympiques, du coup les Russes et les Biélorusses n'ont pas été autorisés à participer à ces JO.
Ils ont été exclus, oui, effectivement. Max,
eh bien c'est la fin de ce 1-2.
Non, c'est pas la fin.
Ah, Cédric, une petite info peut-être.
Une breaking news.
Allez, on t'écoute.
58 secondes, 1-0 pour Angers.
Ah, le match des Ducs. Eh ben voilà, ça, c'est de bon augure pour ce match.
À mon avis, ils doivent bien avoir la dalle là ce soir. Ouais. Je pense pour aller chercher cette seconde place.
On suivra ensemble l'avancée du score durant ce match. On va tout de suite passer une première pause musicale et on reviendra tout de suite en studio après pour écouter notamment l'interview réalisée par Alex de Nabalafana, une courte interview qui dure 1 minute 20. En guise de pause musicale, nous allons nous écouter Angèle avec son titre Bruxelles, je t'aime.
De New York, on n'a pas de lumière de jour. 6 mois dans l'année, on n'a pas beau bourg. Ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez. La fête. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma
Retour dans les studios de Radio G pour la suite de votre émission sportive Génération Sport. On est donc de retour avec toute l'équipe et on va passer la petite interview. On vous l'avait promis en début d'émission, l'interview de Nabala Fofana. C'est une joueuse de l'UFAB, elle joue au poste de pivot et elle a connu une blessure en début de saison, donc elle s'est fait les croisés. Elle n'a pas pu jouer samedi, mais donc on a réussi à avoir une courte interview avec elle. Et donc on lui a demandé son ressenti sur le match et également sur sa rééducation. Du coup, Nabala, un peu ton ressenti sur cette défaite?
C'est une défaite un peu dure parce que la première mi-temps, on a été au coude à coude avec elle. Mais malheureusement, quand on a des équipes comme ça, c'est les détails qui comptent et on n'a pas su gérer certains points défensifs ou en attaque. On a perdu quelques ballons et en défense, on s'est oublié. C'est ça qui a fait que à la mi-temps, il y a eu 17 points d'écart, quoi.
Et la première mi-temps était quand même encourageante. Est-ce que vous avez peut-être pensé que vous pouviez aller les chercher sur la deuxième?
Bien sûr, on y croyait, c'était l'objectif. Le coach nous a dit que c'est dès maintenant qu'il fallait rentrer dans le match, dès le début en fait, à la mi-temps, à la reprise, parce que c'est une équipe qui va revenir bien sûr plus forte. Et malheureusement, on n'a pas su gérer et on a perdu des ballons qui ont fait que elles ont scoré juste après. Et ça a été difficile pour nous du coup de revenir.
Et toi, au niveau personnel, ta récupération, comment ça se passe?
Pour l'instant, je fais ma rééducation sur Angers et ça se passe. C'est une blessure qui est assez longue et c'est vraiment step by step. Ça avance petit à petit. J'essaie de reprendre du muscle d'abord avant de pouvoir reprendre de la course et les sauts, etc. Donc j'espère pouvoir être opérationnel pour la saison prochaine.
Vous venez?
Voilà, c'était l'interview de Nabala Fofana qui a été réalisée par Alex à la suite du match entre l'UFAB et l'ASVEL de samedi dernier. On en profite pour vous redire que le podcast du match ainsi que cette interview sont à retrouver sur le site de Radio G dans l'onglet émission Basket Live, où vous pouvez également retrouver nos anciens podcasts et nos anciennes interviews réalisées lors de direct. Tout de suite, je vais laisser la parole à Alex qui qui va nous parler, évidemment, hein, vu qu'on est dans la journée des droits de la femme, tu vas nous parler sport féminin et plus particulièrement des clubs de sport collectif en France.
C'est ça, ma chronique va permettre de faire un point sur les clubs français féminins de plusieurs sports collectifs comme le football, le handball et le basket, car oui, nos équipes françaises sont bel et bien des vraies chances de voir le sport féminin briller à l'échelle européenne. On parle souvent de la Ligue des Champions de football, c'est la Coupe d'Europe la plus connue, mais connaissez-vous l'Eurocoupe, la Ligue Européenne ou encore la Ligue des Champions féminines? Laissez-moi vous décrire les parcours de Basketland, de Brest Bretagne Handball ou encore l'Olympique Lyonnais de Sonia Bonpastor avec des protagonistes comme Marine Fautou, Paoletta Foppa ou encore Ada Egerberg. Commençons donc par le foot féminin qui bénéficiera d'un nouveau coup de projecteur à l'été prochain à l'occasion de l'Euro 2022. Avant d'aborder cette Coupe d'Europe des Nations, les figures du football féminin se focalisent sur la fin de saison de la Ligue des Champions. Deux clubs français sont encore en course pour la victoire finale et font d'ailleurs partie des favoris. D'un côté, nous avons l'Olympique Lyonnais qui a déjà remporté 7 fois la compétition et qui a été détrôné l'année dernière par le FC Barcelone après 5 titres de suite. De l'autre côté, nous avons le Paris Saint-Germain qui se place en outsider après avoir joué seulement 2 finales en 2015 et 2017. Les Parisiennes surfent sur leur titre de championne de France décroché l'année dernière et montent en puissance cette saison. Opposé au Bayern Munich lors des quarts de finale qui débutent à la fin du mois, les joueurs d'Olé Nicole sont favorites pour rallier le dernier carré. C'est également le cas des Lyonnaises emmenées par l'ex-Ballon d'Or Ada Egerberg de retour de blessure après de longs mois d'absence. L'OL affrontera la Juventus de Turin lors d'une double confrontation fin mars et les deux rivaux du championnat de France s'affronteront s'ils se qualifient donc pour le prochain tour. Lyon ou Paris, il y a donc fort à parier qu'un de ces cadors français de D1 Arkema jouera la finale de Ligue des Champions prévue le 22 mai à Turin. On passe d'un ballon à un autre avec le monde de la balle orange. Les clubs féminins de basket français jouent les premiers rôles cette saison en Euroleague et en Eurocoupe. L'Euroleague, qui se retrouve aussi chez les hommes, représente l'élite du basket européen. Seuls deux clubs français y étaient engagés cette saison, qui sont ni plus ni moins que les finalistes de la dernière saison de LFB, Basketland et Lat Montpellier. Troisième de leur poule, les Héroltaises sont qualifiés pour les quarts de finale de la compétition et ont déjà défié Sopron. Ça s'est passé hier. Ça s'est passé aujourd'hui, pardon. Et le match retour aura lieu jeudi. Donc dans ce match qui vient de se terminer, Lat Montpellier a perdu sévèrement, donc 60-42. Une saison qui est assez compliquée hein, pour les Héroltaises et qui ont terminé troisième de leur poule tout d'abord. Voilà, l'Europe est un peu comme un exutoire pour elle et surtout une belle éclaircie dans cette année mouvementée pour le club occitan. Basketland, de son côté, a été repêché en Eurocoupe après sa 6e place en phase de poule de l'Euroleague. Les Landaises retrouveront Bourges en quart de finale de cette compétition, un autre club français. Basketland, qui possède dans son effectif le passé et l'avenir de l'équipe de France, avec la légende Céline Dumerc et la prometteuse Marine Fautou. Dans l'Eurocoupe, on retrouve aussi l'ASVEL. Cela vous dit peut-être quelque chose et ça va rappeler un mauvais souvenir à l'UFAB. Les Lyonnaises sont revanchardes après avoir échoué en demi-finale des playoffs de LFB l'année dernière. Comme dit samedi, elles seront opposées au Turc de Mersin et ça arrive bientôt puisque l'Eurocoupe reprend dès jeudi prochain. On finit ce Tour de France des clubs féminins de sport co qui brillent en Europe avec le handball. Après une saison 2020-2021 pleine de succès pour les représentants français, les clubs de l'Hexagone sont attendus au tournant cette année. Pour rappel, Nantes avait remporté la C3 en devenant le premier club de sport co de la ville à gagner une Coupe d'Europe. Et en C1, Brest avait créé l'exploit en disputant la finale avant de s'incliner logiquement contre les Norvégiennes de Kristiansand. Cette année, les grands clubs français répondent de nouveau présents. Les vice-championnes d'Europe brestoises joueront les 8e de finale de la Ligue des Champions face aux Danoises d'Odense. Et à ce même stade, on retrouve aussi Metz qui défiera le Borussia Dortmund à la fin mars. En Ligue européenne, c'est juste l'échelon au-dessous. Les Neptunes de Nantes ne sont plus candidates à leur propre succession après leur élimination en phase de poule, mais il reste un seul club français qui a réussi à passer ce stade, et c'est Besançon qui jouera en huitième de finale les Amandes de Bietigheim. Voilà, c'est tout pour ma chronique. J'espère que ça vous a permis d'en apprendre plus sur nos clubs de sport co féminin qui brillent en Europe et qui vont, pourquoi pas, aller chercher des trophées.
Ouais.
Et les gars, est-ce que vous avez d'autres équipes dont vous aimeriez parler, peut-être?
Indirectement, c'est vrai que t'as pas parlé du judo aussi, mais on voit plus en équipe de France, parce qu'on reconnaît les filles plus quand elles sont en équipe de France, mais du coup il y a aussi des très bons viviers aussi de clubs de judo.
Bien sûr.
Voilà, qui arrivent aussi à se mettre en avant, aussi bien au niveau des championnats de France. Et ensuite, voilà, on retrouve ce niveau-là pour les équipes de France.
Il y a notamment le PSG qui a investi dans un club de judo. Il y a Teddy Riner là-bas, je crois. Et puis, ouais, il y a aussi Clarisse Agbenienou, si je ne dis pas bêtise. Alors,
il me semble que tu as raison.
J'ai peur de dire une bêtise, mais en tout cas, ouais. En tout cas, il y a une belle génération. Ça, c'est déjà vraiment important de le dire. Il y a eu beaucoup de médailles aux Jeux Olympiques, et c'est pas pour rien, parce qu'il y a vraiment des judokas très prometteuses en France, et c'est important de le souligner, et ça fera plaisir également à Yann qui nous écoute sûrement.
Et on l'embrasse d'ailleurs.
Puis, bien sûr. C'est vrai qu'il y a d'autres sports où c'est un peu plus dur de les mettre en avant. Par exemple, je pense au biathlon aussi, où c'est essentiellement qu'en équipe de France. Il y a des championnats de France, je pense, mais qui sont, voilà, méconnu, je dirais, du grand public. Mais voilà, donc on peut dire aussi pour les biathlètes, leur club, c'est l'équipe de France au final, et voilà, aussi sur ce terrain-là aussi,
c'est ça. Et puis
on a une belle génération.
C'est ça, comme tu parlais du biathlon, je trouve que c'est un bon exemple d'un sport où comme il y a un cador français masculin qui prend tous les trophées, donc il y a eu Martin Fourcade, Fillon Maillet, alors qu'il y a aussi des grandes championnes qui ont brillé aussi à ces derniers Jeux Olympiques, qui devraient avoir aussi plus de lumière sur leur parcours. Et voilà, on peut aussi faire un parallèle avec l'athlétisme. Je suis en train de faire une transition géniale avec l'athlétisme. Et voilà, on parle souvent de Renaud Lavillenie, de Kevin Mayer, etc. Et c'est vrai que chez les filles, on entend peu parler de ce qu'il y a, en tout cas pour l'avenir. Et notamment, j'aimerais, si Max, tu es prêt à la régie, qu'on... Non, tu as un peu de retard.
Alors, en fait, je viens de réfléchir, en fait, et je me suis dit que c'était plutôt le moment propice pour enchaîner, en fait, avec la partie que Cédric voulait amener, en fait, avec partie de la médiatisation. Et on aura l'occasion
Déjà, on peut annoncer qu'on va diffuser une petite chronique sur Amandine Brossier, donc qui est une athlète française qui est là, enfin... Elle a perdu au championnat de France récemment, mais qui est là, la plus forte en France au niveau du 400 mètres.
Qui a disputé notamment les Jeux Olympiques.
Exactement. Et qui est d'Angers, qui s'entraîne au SCO Angers-Athlée. Voilà. Donc voilà, il y a une petite chronique que j'avais faite la semaine dernière pour la minute des Dalleux. C'est un partenariat avec la quotidienne de Radio G Topette et l'association La Dalle Angevine. Et donc voilà, on écoutera ça tout à l'heure. Et c'est vrai qu'effectivement, on peut parler de la médiatisation, parce que c'est un rôle très important dans le sport sport féminin. Si les gens en parlent, c'est parce que il y a des certains médias qui axent leur reportage, leur attention sur parfois trop les sports masculins.
Mais justement, on peut noter ça. Par exemple, je me retourne vers toi, Faustin. C'est vrai qu'on t'a pas beaucoup donné la parole depuis le début de l'émission, et je m'en excuse. Est-ce que toi, tu suis un peu du sport féminin? Ou tu trouves que c'est compliqué aujourd'hui?
C'est un peu compliqué. Par exemple, moi, je suis beaucoup la NBA.
Ouais.
Et la WNBA, justement, est très peu médiatisée. Même si il y a beaucoup de joueurs qui ont œuvré, genre comme Kobe Bryant, parce qu'il avait coaché lui l'équipe de sa propre fille. Okay. Il y a Chris Paul aussi qui ont fait beaucoup de choses pour l'élever un peu plus, j'ai envie de dire. Mais c'est toujours compliqué. On la voit très peu. Dans tous les médias, quoi. On en parle vite fait, à la rigueur, des finales, des championnes. Mais là, par exemple, si je vous demande qui est leader du championnat...
Est-ce que même toi, tu peux répondre à cette question?
Ouais.
Je crois que le championnat est fini.
C'est l'équipe de Connecticut, pardon.
Ok. Voilà. Donc, malgré ça, vu que tu es passionné de basket, tu suis quand même un peu...
Ouais, j'essaye de... Je peux pas regarder de match, parce que, par exemple, il y en a aucun qui est diffusé à la télé.
Ah oui,
c'est dommage.
Je pense que ce sera un point qu'on abordera. Mais ça fait deux. Alors, je sais sur quelle chaîne qu'on peut regarder.
L'NBA.
L'NBA, ouais.
C'est Bein Sport.
Ouais. Et ça fait depuis
des années.
Et c'est fou quand même que le championnat majeur féminin ne soit pas diffusé. C'est un problème. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le basket, comme ce que disait Alex sur le biathlon. On entend beaucoup parler des hommes, et que ce soit dans tous les autres sports en fait. On entend beaucoup parler des hommes. Mais les femmes en fait sont éclipsées, et aussi on le sait que dans le sport il y a ce rapport à l'argent. On sait que le sport aujourd'hui c'est un enjeu économique très important, et malheureusement aujourd'hui les hommes et les femmes ne sont même pas payés de la même manière pour faire du sport. Et d'ailleurs ça me fait penser à une info, c'est qu'il y a pas longtemps,
ça pense à l'équipe américaine.
Ouais, c'est ça, le parce que
le foot, ouais.
À la suite de la victoire en Coupe du Monde des États-Unis en France, il y avait Megan Rapinoe hein, qui s'était plainte du salaire que recevaient les joueuses de foot américaines en comparaison avec les joueurs masculins. Et ça c'est tombé la semaine dernière, il y a deux semaines il me semble. C'est officiel, les joueuses des États-Unis recevront le même salaire que les joueurs des États-Unis pour toute compétition internationale. Là on parle pas des matchs en club, on parle des matchs entre nations. Mais même ça c'est quand même assez hallucinant que par pays, eh ben, les différences de salaire, parce que là on parle pas d'une différence de salaire en dizaines de milliers d'euros, ça va bien plus loin que ça, c'est des différences énormes. Et c'est un point aussi très important des inégalités entre les hommes et les femmes au niveau du sport.
Ouais, et puis il y a un truc sur la médiatisation, c'est justement en France, j'ai l'impression qu'on parle de certaines sportives quand elles gagnent seulement.
Ouais.
En fait.
Ou quand il y a des événements organisés en France.
Ou quand elles font un sport qui est connu, on va dire. Et justement, je pose peut-être la question à Faustin, peut-être que tu pourras me répondre. En WNBA, est-ce qu'il y a des Françaises, parce que c'est ça aussi qui pourrait mettre de l'intérêt dans ce championnat?
Bah non, il me semble pas. Parce que non, vu que c'est un peu, ça fait 26 ans, il me semble qu'elle existe. Et bah, les Français, les joueurs françaises n'ont pas eu le temps encore de trop.
Je crois qu'il y a eu quelques drafts, non? Je crois que Marine Fautou a fait justement un petit aller-retour là-bas.
Est-ce que c'est aussi un championnat au-delà des Françaises, championnat qui est majoritairement composé de joueuses américaines peut-être?
Ouais, américaines ou canadiennes sûrement.
Ouais, okay.
Et voilà, c'est comme au début de la NBA, il y avait très peu de joueurs européens. Là, la NBA, elle fête ses 75 ans aujourd'hui. Et bah du coup il y a de plus en plus d'Européens comme
le motif de sport justement c'est de se dire que c'est que le début et que ça va continuer à se développer.
Mais c'est fou que ça ait 70 ans d'écart. C'est ça qui est hallucinant, et l'objectif, et surtout en cette journée, c'est de réduire les formes d'inégalité entre les hommes et les femmes. Justement on a eu l'occasion d'un peu parler. Cédric, tu voulais entamer cette partie sur l'impact médiatique que pouvait avoir le sport féminin par rapport au sport masculin. Je te laisse nous expliquer un peu plus cela.
Ouais, et je confirme, il y a bien eu deux Françaises qui ont été draftées en NBA.
Ok.
Donc on en a déjà traité plusieurs fois, mais là c'est vrai qu'il y a une enquête qui est sortie, un article en tout cas qui est tiré d'une enquête qui est sortie sur le site de Libération qui parlait de ça. Le titre c'était « Le sport féminin toujours en quête d'une meilleure médiatisation ». Et c'est vrai que la dernière fois qu'on en avait parlé, on était rendu à un point de se demander réellement si ça allait percer et quand. Et en fait, on se rend compte que aujourd'hui, ça devient catastrophique. Il n'y a quasiment pas de couverture médiatique. C'est simple. Sur l'année 2021, c'est que 20% de la diffusion sportive. Donc, sachant qu'il y a eu quand même de grands événements, c'est ridicule. Alors, chose qui n'est pas dit, c'est est-ce que dans ces 20%, par exemple, Roland-Garros compte comme un événement féminin, ou c'est calculé comme un événement mixte? Parce que souvent, le sport féminin, quand on en voit, c'est associé aux hommes et aux masculins.
Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. Parce que déjà, sur cet événement, par exemple, que tu cites en exemple, il peut y avoir la question de, à ce moment-là, combien de matchs féminins sont retransmis, combien de matchs masculins sont retransmis. Et c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir ce résultat.
Généralement, je dirais qu'à Roland-Garros, ça a l'air d'être quand même assez équilibré.
Ouais.
En tout cas, sur. Peut-être pas forcément sur les premiers tours.
Ouais.
Mais sur la longueur, ça s'équilibre.
Mais moi, je trouve que le tennis fait un peu partie. Enfin, je trouve que c'est un peu une exception en termes d'égalité de retransmission télé entre les matchs entre les hommes et les matchs entre les femmes. C'est vrai qu'à Roland-Garros, on a l'habitude aussi de voir des femmes, et surtout que les victoires féminines dans les grands chelems sont aussi très médiatisées, ce qui n'est pas le cas dans d'autres compétitions et dans d'autres sports. Voilà.
Et puis, ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'avec l'essor d'Internet maintenant, les chaînes font quand même des efforts pour qu'on puisse voir tous ces matchs-là sans qu'on puisse les voir par le média classique de la télé. Mmh. Donc c'est vrai qu'on peut y accéder plus facilement, mais c'est vrai que le tennis, c'est pour moi le meilleur exemple.
Ouais, et puis même en termes de cash prize, de récompenses dans les grands chelems, les récompenses féminines sont aussi astronomiques que les récompenses masculines. On parle en dizaines de millions de dollars quand même pour des victoires de grands chelems. Donc forcément que vu que économiquement le sport essaye d'élever, en tout cas d'arrêter de creuser ce fossé entre les hommes et les femmes, forcément que derrière ça intéresse les diffuseurs télé. Mais c'est vrai que le point que tu as soulevé, Alex, est-ce qu'on parle ici de retransmission de sport mixte, ou alors quand c'est un match en particulier, un match entre deux femmes, est-ce qu'on parle d'une diffusion féminine? J'avoue que la question se pose, mais honnêtement j'ai pas la réponse.
Non, puis enfin, là, voilà, dans le même article, il parlait des les 20 meilleures audiences. C'était 14 matchs de foot, 3 de hand, 3 de rugby, et ça représentait entre 2,2 et 10 millions de téléspectateurs.
Okay.
Pour une chaîne, c'est pas négligeable non plus en termes d'audience, quoi. Donc, je trouve c'est un peu dommage que ce soit toujours relayé. Soit on va les diffuser, mais à des heures pas forcément adaptées, ou alors soit ça va être diffusé, mais on va prévenir à la dernière minute. On le voit souvent, je trouve, pour le hand féminin.
Ouais.
Il y a une amélioration au niveau des équipes de France.
Bien sûr.
Mais le traitement n'est pas le même médiatiquement, quoi.
Ouais, ça dépend. Ça dépend des équipes de France, de leur parcours, en fait. Et des fois, ça va être TFX. Après, ce sera TMC. Et avec, si elle va en finale, ce sera TF1. Donc, il y a aussi un choix de la chaîne. Il y a eu aussi, on parlait de club, il y a eu une grosse crise de retransmission de la Ligue Butagaz Énergie, donc qui est la première division de handball féminin en France, et il y avait eu pas de diffuseur du tout, mais vraiment du tout. C'était il y a 2 ans, on parle de vraiment un truc qui s'est passé il y a 2 ans, alors que les filles étaient championnes d'Europe et du monde à l'époque. Et donc pas de diffuseur. Là justement, c'est l'équipe, alors pour les louer un peu, ils font un truc qui s'appelle l'équipe live. Donc c'est comme une plateforme comme vous pouvez avoir sur Netflix ou Prime Video, l'équipe live. Donc ils peuvent retransmettre plusieurs choses en même temps, donc c'est intéressant. Et notamment la Ligue Butagaz Énergie, ils font aussi un peu Ligue des Champions féminines, donc voilà, ils essayent, en tout cas l'équipe essaye de diffuser le plus de sport. Je sais pas si c'est vraiment axé féminin, on va dire. Ouais. Dans la politique de retransmission de l'équipe, mais en tout cas voilà, on parle pas juste de la pétanque comme on s'est démarré il y a quelques années, mais
oui, le dimanche à 14h sur l'équipe, oui, la pétanque, c'est un classique,
c'est ça.
Oh, c'est le samedi, la pétanque.
Et en tout cas voilà, donc l'équipe essaie d'avoir plus de droits pour mettre plus en valeur des petits sports qui ont pas de diffuseur, et pourquoi pas pour eux d'investir dans le sport féminin, ça peut être beaucoup plus intéressant.
Moi, ça me fait penser à un événement particulier. On a vécu la Coupe du Monde féminine en France, c'était en 2019, si je ne me trompe pas.
Ouais.
2019 ou 2020, je sais plus, 2019. Et là, on avait vu une couverture médiatique impressionnante. Enfin, moi, personnellement, j'avais jamais vu ça pour un événement féminin. Et on se disait, ben voilà, c'est vraiment super. Enfin, du sport féminin est mis en avant, est mis à l'honneur. Et finalement, après cette compétition, on n'a rien eu en fait, alors que pourtant, comme tu en as parlé, il y a le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais qui sont deux des meilleures équipes en Europe, et ce depuis de nombreuses années. Et ben malgré ça, la D1 féminine n'est pas forcément mise en avant dans les médias. Alors oui, il y a certains médias qui essayent de mettre en avant. Il me semble que Canal avait racheté un moment les droits.
Font des émissions, ça va.
Ça commence, et heureusement, puisque le football est un des viviers du sport féminin en France qu'on essaye de développer. par an. Mais le nerf de la guerre, comme j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est l'argent. Si les clubs n'investissent pas, si les, si les États n'investissent pas dans ces sports-là, évidemment que les médias, leur but, c'est de gagner de l'argent. Donc, en gagnant, s'ils diffusent des choses, enfin, si les gens ne regardent peu quelque chose, bah, forcément, ils ne vont pas beaucoup gagner d'argent.
Une sorte de prime
pour
les médias en disant bah, si vous diffusez plus de sport féminin, bah, voilà, vous êtes.
Soit ça, ou alors directement investir dans les structures féminines pour développer le sport féminin pour pouvoir ensuite, après, bah, qu'il y ait des droits TV supplémentaires pour tout ça, mais c'est des inégalités à tous les étages en fait.
En fait, le nerf de la guerre pour les chaînes télé, c'est de payer le moins cher les droits. Donc, c'est vrai qu'ils pourraient.
Pourquoi bah, les chaînes télé réfléchissent pourquoi moi je paierais autant pour avoir au final 10 fois moins de personnes.
Surtout qu'il n'y a pas de concurrence, c'est-à-dire qu'on est sur un truc où il n'y a pas d'autres. Par exemple, tu vois, ce que je disais pour la D1 féminine de handball, il n'y a pas d'autres diffuseurs. C'est-à-dire qu'ils peuvent mettre limite un euro symbolique et c'est bon, quoi. Enfin, évidemment, ça ne se passe pas comme ça, mais tu vois, s'il n'y a pas de concurrence, on a vu sur la Ligue 1 de foot, on a eu des trucs qui sont partis à 1 milliard.
Oui.
C'est pas. Enfin, voilà, s'ils commencent. Enfin, s'il y a de la concurrence sur certains trucs, s'il y a plusieurs petites chaînes entre guillemets qui se créent, ou s'il y a des médias qui investissent de plus en plus dans le sport féminin, là il y aura à coup sûr des retombées économiques pour les clubs.
C'est pour ça, enfin, il y a une chaîne qu'on parle souvent ici dans l'émission et qui est très peu connue, c'est la chaîne Sport en France, qui mine de rien met en avant le sport féminin ainsi que l'handisport. Par exemple, si on prend la carte de ce soir, il y a de l'handisport programmé à une heure accessible à tous. Et je regardais, par exemple, dans la soirée, on a un championnat du monde de tir féminin qui est diffusé.
Okay.
Donc, qui va être multidiffusé. Donc, quelqu'un qui veut s'y intéresser, voilà, il a plusieurs possibilités de revoir l'événement. Et ils font l'effort, des fois, quand ils peuvent, et qu'ils ont le droit, de les mettre en replay. Donc,
Sport en France, c'est public ou c'est privé?
Alors, je pourrais pas te dire du tout, comme ça, j'ai regardé, mais.
En tout cas, Sport en France, ouais, c'est ça que. On entend parler et souvent par exemple, dans les matchs des Ducs.
Voilà, la Ligue Magnus passe régulièrement. Et tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu parlais du résultat de la Coupe d'Europe de basket. Mmh. Je suis allé rapidement voir sur l'application de l'équipe. Quand on prend l'actualité du jour, ils parlent de la NBA en basket.
Ouais.
Et ils parlent de l'Euroleague masculin.
C'est ça.
Et il n'y a aucun, dans les résultats directs, dans les lives, notion de ces matchs.
Du coup, Sport en France, le propriétaire, c'est le Comité National Olympique et Sportif Français. Donc, c'est quand même une organisation, en tout cas, sportive officielle.
Toi, Faustin, quel œil tu portes sur cette différence de médiatisation entre le sport chez les hommes et d'un autre côté chez les femmes?
C'est vrai que malheureusement, l'argent, c'est vraiment le problème, et que c'est malheureusement pas assez rentable d'investir dans du sport féminin, parce que après du coup tu feras moins d'audience, tout ça, et du coup le sport masculin qui prend toute la médiatisation, quoi. Et ça, c'est quand il y a deux événements, même si c'est un événement genre plus important féminin, une journée simple de Ligue 1, je pense qu'elle passera devant.
Ah oui, oui, je pense que. Mais je sais plus, par exemple, pour la Coupe du Monde. Après, c'était l'été, donc forcément qu'il n'y avait pas d'autres compétitions chez hommes. Mais ouais, je pense que tu as raison, que ce soit la Coupe du Monde de foot comparé à anciennement la Coupe de la Ligue ou maintenant la Coupe de France, ça fera beaucoup moins.
Par exemple, là, cet été, va y avoir l'Euro 2022 de football féminin. Mais si la Coupe du Monde 2022 n'avait pas été organisée au Qatar et donc pas délocalisée à une période un peu folle, ça aurait sûrement été en même temps. Donc là, il y en aurait eu un bon exemple de qui aurait choisi quoi.
Je pense que là, il n'y aurait pas eu photo, malheureusement.
Ah, bien sûr. Non, mais après, il y aurait peut-être eu une adaptation aussi des instances de ne pas se marcher sur les pieds. Mais oui, il n'y aurait pas eu photo et on aurait vu que l'effervescence de 2019 s'est estompée.
Et c'est vraiment dommage parce que pour le coup, c'était vraiment très plaisant de voir autant de gens dans les stades chez nous en France.
Bien sûr.
Pour voir du foot féminin, c'est un truc qu'on n'avait jamais vu.
Et puis que les médias classiques de la presse.
Oui, relayent surtout.
Relayent aussi.
Ouais,
et prennent les bonnes décisions. Des fois aussi pour les unes.
On peut enchaîner, donc on va passer tout de suite une petite chronique. On est sur la fin d'émission. J'ai donc préparé une chronique pour qui s'appelle la Minute d'Aleu, que je fais ça chaque semaine dans Topette. Et donc on va s'écouter celle sur Amandine Brossier, une athlète du SCO Athlé.
La Minute des Daleux par la Dallangeville.
Bonjour à tous les Daleux. Après plusieurs semaines à vous parler des sports collectifs, on va retourner vers les sports individuels avec de l'athlétisme. On va s'intéresser aujourd'hui à une athlète qui est devenue une des meilleures de sa discipline en France, mais qui a subi un petit coup d'arrêt ce week-end. On va vous parler d'Amandine Brossier. Amandine Brossier est licenciée au SCO Angers Athlé et porte fièrement les couleurs du club angevin à travers le monde. La native de Cholet fait partie de la poignée d'Angevin à avoir pris part aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo en août dernier. Un rêve éveillé pour celle qui s'entraîne depuis de longues années sur la piste du stade Miculac au lac de Maine. L'athlète de 26 ans est une spécialiste du 400 mètres et surtout une des meilleures en France après avoir aussi couru sur 200 lors de son début de carrière. La sprinteuse se fait remarquer pour la première fois en 2017 en décrochant la médaille d'argent du 4x100 mètres au championnat d'Europe Espoir en Pologne. Un an plus tard, elle décroche le même métal aux Jeux méditerranéens de Tarragone, cette fois dans un autre relais, celui du 4x400 mètres. Mais c'est bien l'année 2021 qui révèle Amandine Brossier au public angevin et au public français avec ce premier titre de championne de France du 400 mètres en extérieur qu'elle décroche symboliquement au stade Miculac à Angers. De bons résultats qui en font une tête d'affiche du 400 mètres féminin français et qui lui valent une qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Pour ses premières Olympiades, l'Angevine passe les séries mais échoue aux portes de la finale malgré un excellent chrono en 51-30 à 5 centièmes de son record. Même résultat avec le relais 4x400 où elle et ses partenaires ne passent pas les séries. L'experte du tour de piste ressortait globalement satisfaite de ses premiers Jeux et semble promise à un avenir radieux. Mais ce week-end a marqué un petit coup d'arrêt, comme on l'a dit, pour la licenciée du SCO Athlé à l'occasion des championnats de France en salle à Miramas. Déjà sacrée 3 fois en indoor, Amandine Brossier était la grande favorite à sa propre succession, mais visait surtout les minima pour les mondiaux en salle de Belgrade qui auront lieu du 11 au 13 mars prochain. Après avoir dominé de la tête et des épaules les séries, l'Angevine a complètement craqué en finale, puisqu'elle fut battue dans la dernière ligne droite par la niçoise Camille Seri. En plus de perdre sa couronne nationale, l'athlète ne parvient pas à réaliser les minima et ne verra donc pas les mondiaux en Serbie. Après sa prestation décevante, son entraîneur Sullivan Breton indiqua à Ouest France que sa protégée allait maintenant s'accorder une petite pause avant de se focaliser de nouveau sur la saison estivale et notamment les championnats du monde en extérieur. Un coup dur donc pour l'ancienne lauréate de la Dallangeville, mais un événement qui forgera à coup sûr sa destinée vers les sommets de l'athlétisme mondial.
La Minute des Daleux par la Dallangeville.
De retour dans les studios de Radio G pour la suite et fin de l'émission. On va se dépêcher parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Cédric, tu avais 2 petites infos concernant du hockey sur glace.
Les Ducs mènent toujours, puisqu'entre-temps, ils ont scoré. Il y a 2-0 actuellement. Et l'info qui reste dans le thème d'aujourd'hui, c'est que, comme vous le savez, l'Ice Park va recevoir une partie en fait du championnat du monde féminin, donc, qui avait été décalé à cause du Covid. Donc ça sera du 24 au 30 avril. On aura notamment la chance de voir l'équipe de France féminine jouer ici. Donc depuis ce matin, vous pouvez réserver vos places et voir du hockey féminin.
Max, on va conclure.
Ouais, c'est la fin. C'est la fin de cette émission, tout est bien au niveau des micros. Fin d'émission donc de Génération Sport. Merci une fois de plus de nous avoir écoutés. Vous pourrez retrouver, comme on l'a dit au long de l'émission, les podcasts qu'on a réalisés samedi dernier entre le match de l'UFAB et de l'ASVEL sur le site de Radio G, onglet émission Basket Live, ou encore les podcasts des dernières émissions de Génération Sport sur l'onglet Génération Sport au même endroit sur le site internet. Je vous remercie messieurs pour cette émission. Merci Faustin d'avoir été été là, ça a été ?
Bah ouais, comme la dernière fois.
Comme la dernière fois, de toute façon, je pense que tu reviendras hein, dans l'émission. Je pense que t'en as envie et nous aussi. Il est, ouais, il va être 20h59. Et ben, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée sur les ondes de Radio G. Et puis quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure.